Chapitre 6. Le yacht Cinderella. Le yacht Cinderella, propriétaire et commandant le prince héréditaire Christian de Monte Cristo, 16e du nom, était ce qu'on appelle une goélette composite de 530 tonneaux à trois mâts et à hélice, avec une machine de 350 chevaux et des soutes pour 20 jours de charbon. Sa vitesse, sous machine seule et par belle-mère, était d'environ 12 nœuds, mais cette vitesse pouvait être notablement augmentée par la voilure quand le temps était favorable. À l'extérieur, la Cinderella montrait une coque affilée, longue et légère, promettant les qualités et l'allure d'un cheval de pur sang. L'heureuse proportion de ses agrès, la perfection d'ajustement de ses membrures, que rehaussait encore une simplicité pleine d'élégance, frappèrent d'emblée l'œil exercé de René Caudal, très porté pourtant par sa profession même, à se méfier des bateaux de plaisance et à les croire voués d'avance à l'infériorité. La tenue de l'équipage, en sa correction parfaite, était visiblement copiée sur celle des navires de guerre. Le jeune enseigne nota avec satisfaction la physionomie ouverte et franche des hommes, indice toujours caractéristique à bord d'un bâtiment. Le plancher du pont reluisait de propreté, les cuivres avaient le brillant de l'or. L'officier qui reçut l'invité du prince à la coupée était d'aspect moins satisfaisant que l'ensemble du yacht. Il se présenta lui-même comme le capitaine Sacripanti, commandant en second du yacht, aussitôt que René Caudal se fut nommé. C'était un petit homme gros et court, aux cheveux noirs luisants de pommade, à la cravate voyante, à la double chaîne de montre ornée de médaillons, aux doigts chargés de bagues et qui ressemblait plutôt à un valet de place napolitain qu'à un officier de marine. Son accent ne démentait pas cet aspect peu nautique. Il était de ces gens d'origine vague qui parlent aussi mal et de la même voix grasse toutes les langues du bassin de la Méditerranée. Après s'être incliné très bas, en découvrant deux rangées de dents éclatantes, il s'offrit à conduire le jeune enseigne au commandant, offre qui fut d'emblée acceptée. Pour se rendre à l'arrière, René traversa à la file un salon, un fumoir, une salle à manger, une bibliothèque luxueusement aménagée, puis son guide frappa un coup discret à la porte de la chambre d'honneur.
« Entrez !»
cria une voix tonnante. Le commandant en second fit glisser la porte dans ses rainures et s'effaça pour laisser passer René. « Monsieur l'enseigne de vaisseau Caudal » annonça-t-il d'un ton de solennité. Aussitôt, un homme de haute taille surgit des profondeurs d'un fauteuil monumental et, déposant sur un guéridon la revue qu'il était en train de lire à l'aide d'un double lorgnon, s'avança les deux mains tendues.
« Ah, mon cher monsieur Caudal, que je suis aise de vous voir »
s'écria-t-il plein d'effusion. Et il pressa les mains du jeune homme dans les siennes d'un air aussi ravi, en effet, que s'il retrouvait un ami depuis longtemps perdu de vue. Pour un peu, il l'eût embrassé. Sans s'étonner, René lui exprima le plaisir qu'il éprouvait de son côté à faire la connaissance du prince de Monte Cristo.
« Eh bien, savez-vous, je vois que nous allons nous entendre comme larrons en foire, ma parole !»
s'écria le prince avec explosion dès que René eut fini de parler.
« D'abord, moi, je suis comme cela, je vous en avertis, homme de premier mouvement. Si les gens me vont, je le leur dis au nez. S'ils me déplaisent, ma foi, je le leur dis aussi. Et vous me plaisez même beaucoup. Je suis positivement enchanté de faire votre connaissance. » « Enchanté de vous posséder à mon bord pendant quelque temps, enchanté de ce que nos travaux vous intéressent et de ce que vous désirez y prendre part. J'espère que vous vous plairez parmi nous. »
Continua-t-il avec volubilité, sans prêter aucune attention aux quelques paroles polies que l'enseigne crut devoir murmurer.
« Si vous ne vous y plaisiez pas, il faudrait me le dire, tout net, et je tâcherai de changer. » « Non, pas mon yacht, évidemment. Ce ne serait pas pratique, mais enfin je m'efforcerai d'arranger les choses à votre goût. Ah, voyons, vous conviendrait-il de visiter mon petit sabot ? C'est mon yacht que j'appelle ainsi.
Partageant de bon cœur la bruyante hilarité du prince, René déclara qu'il était tout prêt à visiter le sabot. Son hôte, se coiffant d'une vaste casquette, se mit aussitôt à le précéder dans tous les recoins du navire, du pont à fond de cale, sans lui faire grâce d'un détail. René fut obligé d'avouer que tous les arrangements, tant extérieurs qu'intérieurs, étaient parfaits. Rien ne manquait de ce qui pouvait servir aux travaux scientifiques que le prince avait entrepris. Atelier photographique, atelier de menuiserie, forge, laboratoire de physique et de chimie, tout semblait admirablement organisé. Deux ou trois douzaines d'ouvriers, dirigés par des contremaîtres, occupaient ces divers ateliers. Le prince murmura à l'oreille de son hôte, d'une voix de stentor, que c'étaient tous des gaillards d'élite et des gens qui lui plaisaient, sans quoi il les mettrait à la porte carrément. Cette altesse était vraiment une physionomie singulière. Au physique, un véritable colosse, grand, large à proportion, l'abdomen majestueux, le teint cramoisi, les yeux saillants, la face pourvue d'un puissant nez aquilin, ou plutôt d'un rostre énorme, qui, joint à un crâne aplati vers l'occiput, lui donnait une ressemblance fantastique avec un perroquet. La voix était retentissante, le geste libre, le rire homérique en son ampleur, les manières d'une cordialité exubérante. Il affectait une rondeur, une franchise touchant à la brusquerie. Bavard infatigable, il s'arrangeait pour articuler sans paroles où le commun des martyrs en aurait à peine placé 10. Mais ce qui frappa d'abord René, ce fut le dédain philosophique qu'il professait en toute occasion pour le rang souverain où le sort l'avait placé. Il est vrai que sa souveraineté ne s'étendait guère qu'à un îlot de 200 ou 300 hectares, dont la principale industrie et l'unique source de revenus était une mine de plomb argentifère, exploitée par 700 ou 800 forçats que le prince soulouait à une nation voisine. À l'entendre, il n'estimait au monde que le mérite personnel. Le dernier des balayeurs, affirmait-il, valait mieux à ses yeux qu'un empereur sur son trône, pourvu qu'il fût bien doué intellectuellement. On eût dit qu'il voulait, grâce à cet étalage de principes, se faire pardonner la colossale fortune qu'il avait trouvée dans son berceau avec la couronne princière quelque 50 ans auparavant. Du moins avait-il le bon goût d'en employer un bon tiers à des travaux utiles à la science.
« Je me considère comme un intendant, »
répétait-il volontiers.
« Ma fortune n'est pas à moi, je ne fais que la gérer pour ceux qui n'en ont point. Quant à mon nom, peu, qu'est-ce que cela ? Comme dit l'immortel Shakespeare, sous tout autre nom, la rose embaumerait-elle moins ? Je vous atteste que je n'y attache aucune importance et que je m'appellerai avec autant de plaisir Gros-Jean que Monte-Cristo. »
En attendant, il ne perdait pas une occasion de rappeler ses 1200 ans d'aïeux plus ou moins authentiques. En 5 minutes, René le connut à fond. Bien qu'assez ridicule en réalité, son hôte ne lui inspirait aucune aversion, et la perspective de passer quelques semaines à bord d'un si charmant navire n'avait rien pour lui déplaire. Le prince voulut l'installer lui-même dans sa cabine, commode et élégant réduit, ouvrant sur la bibliothèque. Il supplia le jeune homme de se considérer là comme chez lui et de bien vouloir se plaindre si n'importe quel arrangement n'était pas à sa convenance. René l'assura en toute sincérité qu'il n'avait jamais été si confortablement logé et ils remontèrent sur le pont les meilleurs amis du monde. Le but du voyage présent de la Cinderella, on s'en souvient, était de procéder à des sondages de haut fond dans l'Atlantique. René demanda bientôt à voir l'appareil qui servait à cette opération, investi pour lui d'un intérêt que ne soupçonnait guère l'honnête Monte-Cristo. Le prince s'empressa de le conduire à l'endroit où reposait le principal engin de sondage, en ce moment au repos sur le pont. C'était un énorme bloc de plomb, ne pesant pas moins de 1000 kilogrammes. Autour de son extrémité supérieure s'enroulait une solide corde de soie mesurant, ainsi que Monte-Cristo l'annonça non sans fierté, 1500 mètres de longueur.
Vous le voyez,
dit le prince, tout heureux de pouvoir se livrer à une démonstration.
Notre plomb monstrueux est évidé à sa base et garni de suif. Quand il a séjourné un temps suffisant sur le fond, on le remonte lentement au moyen de ce treuil. Il reparaît alors garni de coquillages, gravier, herbes, débris de toutes sortes, qu'il a ramassés en traînant au fond de la mer. C'est en étudiant la nature de ces débris à la loupe que nous arrivons à déterminer les espèces végétales et animales, souvent nouvelles, que recèlent les hauts fonds de l'abîme.
Comment ? Dit René, surpris et désappointé. Vous n'avez pas d'autre procédé pour vos recherches ?
Mais non, mon cher, et n'a pas qui veut un plomb comme le mien, je vous l'assure. Voyons, que lui trouvez-vous de défectueux ?
Rien en lui-même, certes, c'est un plomb superbe. Mais ce que je me permettrais de trouver défectueux, primitif, enfantin, c'est de s'en rapporter à un pareil engin pour examiner le fond.
Et à qui voulez-vous que je m'en rapporte ? Voulez-vous que j'envoie un appareil photographique à 1000 mètres sous l'eau ? Et le moyen, s'il vous plaît ?
Un appareil, non.
Ah, vous voyez bien.
Mais un homme, oui. Pour moi, je vous l'avoue, commandant, je n'ai demandé à me joindre à vos recherches que dans l'espoir formel d'aller moi-même, en personne, au fond des mers. Je tiendrais à voir par mes yeux ce qui se passe en bas, et tous les coquillages que pourra rapporter le plus gros plomb du monde ne me disent absolument rien. Le moindre coup d'œil personnel ferait bien mieux mon affaire.
Hé hé !
Fit le prince avec son gros rire.
Je vous crois sans peine, mon jeune ami. Moi aussi, j'aimerais bien voir par mes yeux ce qui se passe chez les poissons. Il n'y a qu'un malheur. C'est impossible, tout simplement.
Pourquoi impossible ?
Pour une très bonne raison. C'est que nous faisons nos sondages à de telles profondeurs qu'on ne saurait penser à pourvoir nos scaphandriers d'un tube respiratoire de pareille longueur. À moins d'envoyer des amphibies explorer le fond, comment nous y prendrons-nous donc pour faire respirer nos explorateurs ?
René réfléchit un moment avant de répondre. Il est clair que cette opération de l'air respirable est la seule qui doive nous arrêter, dit-il enfin. Eh bien, si on ne peut pas établir un tube suffisamment long, il faut chercher autre chose. Voilà tout.
Ho ho ! Voyons un peu !
Fit le prince en croisant ses bras sur sa large poitrine. Voici, il faudrait, selon moi, arriver à établir un scaphandre spécial, un scaphandre de haut fond, pourvu d'une provision d'air respirable suffisante pour 3 ou 4 heures, et que le plongeur emporterait. Autour du câble de suspension s'enroulerait le fil d'un téléphone qui permettrait de rester en communication avec l'explorateur. On le remonterait dès qu'il le demanderait, et dans le cas où il ne donnerait plus signe de vie après un certain temps, on le remonterait également, et sans perdre une minute, au moyen d'une machine à vapeur.
« Savez-vous que c'est là un des plans les plus ingénieux ?»
s'écria le prince enchanté.
« Je n'y vois qu'un défaut, c'est que nous n'avons pas ce scaphandre. »«
Je le pense bien. »«
Alors ?»«
Il nous faut l'inventer. N'avez-vous pas ici même, à bord, des ateliers complets, d'excellents ouvriers ?»«
Certes, il n'y en a pas de meilleurs que les miens, j'ose m'en flatter. » »«
Eh bien, si vous le permettez, je m'installe sur l'heure dans la bibliothèque, je me mets à étudier mon plan de scaphandre, et j'espère avant peu être en mesure de donner à vos ouvriers des indications assez précises pour qu'ils en construisent un des plus satisfaisants.
« Si vous faites cela, il faudra que je vous embrasse !»
s'écria le prince enthousiasmé, voyant déjà les rapports qu'on adresserait aux sociétés savantes et l'intérêt qui se porterait sur son nom.
« Si vous réussissez ma parole, je vous donnerai volontiers 1 ou même 2 années des revenus de ma principauté. »«
Je ne demanderai pas tant que cela, » dit René en riant. « Permettez-moi seulement de descendre le premier dans mon appareil et de choisir moi-même l'emplacement des sondages, au moins au début. »«
Eh, mon cher enfant, assurément, vous choisirez tout ce que vous voudrez. Quand vous plairait-il de commencer ?»
« Dès que nous serons en route. »«
Bravo! Et vous désirez voguer vers?
Je serais particulièrement heureux d'explorer les alentours de la mer des Sargasses. Arrivés à un point placé vers le 25e degré de longitude est et sous le 36e degré de latitude nord, nous ferions halte et nous procéderions au sondage.
Oh oh, vous avez des idées, arrêtez! Cela est clair. Et que pensez-vous découvrir sur ce point exact? Beaucoup de goémons, sans doute, mais encore!
L'expérience m'a appris, en effet, que la mer est couverte en cet endroit d'une quantité de varechs, que les savants appellent fucus natans, et nos marins, tout simplement, raisins du tropique ou goémons du golfe. Mais que nous importe, cela ne nous gênera en rien, j'imagine.
En effet, votre scaphandre sera bien écarté ce mouvant tapis. Eh bien, mon cher, à vos ordres. La bibliothèque et les ouvriers sont tout à votre disposition, et je vais à l'instant donner la route en question.
Le prince s'éloigna vivement, laissant son hôte très heureux de se voir en marche vers sa mystérieuse ondine, et, tandis que le yacht levait l'ancre et se mettait en route, le jeune officier s'enfermait dans la bibliothèque où, grâce à une assez grande habileté comme dessinateur, et avec le secours de force livres techniques, encre de Chine, crayons de couleur, compas et planches à lever, il ne tarda pas à voir prendre figure, sur le papier du moins, à l'appareil qu'il rêvait. Après avoir complété plus de 20 épreuves, sans en réussir une à sa satisfaction, il finit pourtant par livrer aux ouvriers un plan qui semblait réunir toutes les conditions voulues et, sous sa direction, l'atelier de menuiserie attaqua l'ouvrage. Le prince de Monte-Cristo n'avait pas surfait l'habileté de ses hommes. C'étaient tous des praticiens émérites et qui savaient exécuter avec intelligence des instructions malaisées à suivre. Le scaphandre imaginé par René se composait d'une énorme caisse circulaire de 30 mètres cubes environ, formant chambre close et lestée à sa base de 3000 kg de plomb. Une armature d'acier garnissait cette base et se reliait par de fortes bandes également d'acier aux grappins de suspension rattachés eux-mêmes aux palans d'embarcation sur l'un ou l'autre flanc du navire. Un jeu de poulies et le cabestan à vapeur devait permettre de noyer l'appareil et de le relever à volonté. La chambre submersible était munie d'oculaires et de hublots en verre épais, mais parfaitement limpides, qu'un faisceau de lumière électrique pouvait traverser dans toutes les directions pour éclairer le milieu ambiant. La source de lumière était une lanterne mobile, accrochée au plafond et alimentée pour plusieurs heures par un accumulateur. Cet accumulateur se logeait dans la caisse d'un sofa des plus moelleux qui formait, avec une table de travail, deux fauteuils et une chaise, l'ameublement de la cabine. Près du sofa se dissimulait au fond d'un grand vase de Chine un flacon à deux tubulures dégageant automatiquement une petite quantité d'oxygène, aussitôt qu'on tournait un bouton pour le mettre en activité. En face, et sous le couvert d'une seconde potiche, se trouvait une cuve métallique que René, sans le dire à personne, se réservait de remplir d'eau de baryte. On sait que le protoxyde de barium ou baryte, découvert par le chimiste allemand Scheele, a la remarquable propriété d'absorber avec une extrême précision l'acide carbonique de l'atmosphère. Le jeune enseigne était convaincu qu'un bain de baryte, associé au besoin à un léger supplément d'oxygène, devait suffire à maintenir pendant de longues heures les propriétés respiratoires de ces 30 mètres cubes d'air, et l'expérience devait pleinement justifier sa prévision. Ainsi aménagée, vernie et cirée avec soin, la chambre submersible avait l'aspect d'une très grande et très élégante cabine d'officier. Elle se complétait par quatre sacs de caoutchouc symétriquement placés vers la base et se terminant en manière de gant. Ces sacs devaient permettre à un bras humain guidé par la lumière électrique d'appréhender et de saisir au dehors des spécimens de gravier, de sable ou de végétation sous-marine. Les spécimens ramenés ainsi à l'intérieur de la chambre auraient sûrement beaucoup plus de chances d'arriver sains et saufs à la surface que par le procédé primitif du suif fixé sous la sonde traditionnelle. Enfin, pour achever la réalisation du programme tracé par René Caudal, un fil téléphonique, enfermé dans l'épaisseur même du câble de suspension, tenait le plongeur en communication constante avec le chef de l'équipe préposé au cabestan. Tout appel devait être immédiatement entendu, tout ordre exécuté sans erreur possible. Si bien qu'au lieu d'être moins maniable et moins sûr qu'un scaphandre vulgaire, l'appareil nouveau était en réalité le plus souple et le plus obéissant des scaphandres. Une fois mis en train, les travaux avancèrent avec la plus grande rapidité. René, se donnant tout entier à son œuvre, montrait une ardeur qui étonnait et charmait son hôte. Par nature et par éducation, le prince de Monte-Cristo était ennemi de tout labeur et de tout effort personnel et, quoique, en homme très moderne, il ambitionnât les lauriers scientifiques, il ne lui serait jamais venu en tête de les cueillir autrement que par procuration. Travailler et lutter pour arracher une révélation de plus à cette nature si avare de ses secrets, c'était bon pour les pauvres diables que le sort a fait naître parmi l'obscure multitude. Consacrer des capitaux dont il ne savait que faire à des entreprises qui lui rapporteraient de l'honneur, sans lui dérober une minute de son farniente, à la bonne heure, mais donner de sa personne, c'était une autre affaire. Aussi était-il grandement surpris à part soi de voir René Caudal, à un âge où l'on pense plus souvent à s'amuser qu'à faire progresser le monde, bûcher comme un manœuvre, manier le rabot, la scie, le marteau, plonger sans hésiter ses mains dans la poix ou dans la colle nauséabonde, peiner, en un mot, du même entrain que si le pain du jour en avait dépendu. Il s'en réjouissait autant qu'il s'en étonnait d'ailleurs, et, gagné par le feu et l'action de son jeune collaborateur, il se laissait aller aux plus belles espérances, voyait déjà son nom cité avec éloge par les académies, vénéré par les générations futures. Cependant, le yacht arrivait sur les eaux calmes de la mer mystérieuse et, depuis 8 jours déjà, il ne faisait plus de route, se contentant de courir des bordées, tandis que les ouvriers du bord mettaient la dernière main à leur travail. Que de fois, se penchant à la galerie de l'arrière, René s'était efforcé de sonder les profondeurs glauques de l'abîme. Était-ce bien là que respirait cette créature énigmatique dont la voix de cristal vibrait encore au fond de son être? Était-ce là, sous cette muraille sombre et luisante, sous ce volume formidable d'eaux obscures, que vivait, marchait et pensait la jeune fée? La nuit, une force irrésistible attirait René Caudal hors de sa cabine. Il s'accoudait au bastingage et, tandis que les étoiles semblaient le regarder en clignotant, il cherchait à percer d'un œil avide les vagues noires, souvent allumées de feu phosphorescent. Que de fois un rayon de lune le fit tressaillir, c'était elle, c'était ses bras éblouissants qui sortaient de l'eau pour l'appeler. Un soir, vers minuit, était-ce un rêve? S'était-il endormi? Il crut entendre de nouveau le chant inoubliable. C'était loin, très loin, comme une plainte d'oiseau glissant à la surface des eaux sous l'éventail de la brise. L'impression fut si forte qu'il se dressa sur ses pieds et, d'un élan irrésistible, répondit par une phrase musicale, une phrase jetée au vent de sa voix jeune et chaude à ce qui lui semblait une salutation surhumaine. Mais aucun son ne lui arriva plus cette fois. Sans doute il s'était trompé, où son rêve avait pris la vigueur intense d'une réalité. Il se frappa le front en se demandant s'il devenait fou. Et, dans ce mouvement, son regard tomba sur la bague mystique qu'il avait au doigt. Non, il ne rêvait pas. Non, il n'était pas fou, puisqu'il tenait la preuve palpable de son aventure. Et à l'idée que cet anneau le liait à la merveilleuse Ondine, que par ce lien, il était forcé de chercher à la revoir, il se sentait capable de toutes les audaces, de tous les héroïsmes. Ah, il savait maintenant pourquoi Ulysse avait bouché avec de la cire les oreilles de ses compagnons en passant près du cap des sirènes. Il en avait fait l'expérience. Celui qui, une fois a entendu leur chant magique, voudra l'entendre de nouveau. Dût-il lui en coûter la vie ?